Maître Trarieux. À la reprise de l'audience, Maître Trarieux, partie civile, se lève et demande pour la forme, au nom de la famille Jay, un franc de dommages intérêts. Le sénateur de la Gironde commence par demander pardon à la mère d'Henri Chambige du langage qu'il va être obligé de tenir, que son devoir lui impose. Mais Chambige est un assassin qui s'est replié dans sa lâcheté, comme il s'était exalté dans son orgueil. C'est un romancier pervers et redoutable qui n'a pas craint d'associer à la honte de son crime la malheureuse femme dont il a pris la vie et qui n'est plus là pour se défendre. « Non !» s'écrie Maître Trarieux. « Le meurtre abominable dont vient répondre Henri Chambige n'est pas un meurtre sublime. C'est un lâche assassinat. Et quant à lui, une balle à travers la joue a suffi pour lui rendre le sentiment de sa conservation personnelle. » Maître Trarieux trace un portrait charmant de Madame Jay, le type accompli de la pureté, de la grâce, marié à un homme vers lequel l'avait poussé cette inclination si noble et trop rare dans le monde et qui survit même à la mort. Elle portait en elle le nom de plaire, dit-il, et toutes celles qui l'ont connue enfant, jeune fille ou jeune femme, comme Madame Raoul Duval, Madame Boutmy, Madame Méchassériau, dont Maître Trarieux lit quelques lettres émues, repousse avec indignation l'idée même d'une faute. Madame Jay ne vivait que pour son mari et ses enfants. C'était une sainte qu'il faut placer ici sur un piédestal, non pour la vengeance, mais pour la réparation. Quant à Henri Chambige, il est venu au monde marqué par le sceau de la fatalité. Sous l'empire d'une hérédité redoutable, il a eu tout enfant des idées de suicide. Et il a traîné avec ennui, dès l'adolescence, sa misérable petite créature. Lui-même s'est analysé et a reconnu qu'il était un déséquilibré, un impuissant, tourmenté par le perpétuel avortement de ses rêves. Pour son malheur, cette âme sans frein a été attaquée encore par la littérature pessimiste, si fatale au cerveau d'argile, qu'elle déforme et qu'elle dégrade sans remède. « Méfions-nous, dit M. Trarieux, de ces jeunes gens dont les yeux sont vides d'espérance et dont la bouche ne sourit jamais. S'ils prétendent de croire à rien, c'est qu'ils se rendent prêts à tout. » Maître Trarieux cite cette phrase d'un roman de M. Martin Laya, intitulé « Yvon d'or » et dédié à l'accusé. « Les femmes sont comme les pipes. Quand on en a cassé une, on la met au fond d'une malle et on en prend une autre. » Puis l'avocat de la partie civile entre dans la discussion d'un récit de l'accusé. Il fait ressortir l'impossibilité morale, d'après lui, d'admettre que cette femme de 30 ans soit partie avec un jeune homme de 22, quittant un mari charmant et vaillant et les deux petites fillettes que le jour même de sa mort elle faisait encore travailler sous ses yeux. Maître Trarieux lit plusieurs lettres adressées par Madame Jay à ses amis dans les derniers jours de sa vie, lettres qui indiquent assez peu de prétention à faire oublier Madame de Sévigné, mais témoignent d'une complète liberté d'esprit. Le jour même de sa mort, Madame Jay laissait inachevée une lettre à l'une de ses parentes, parlant de 1000 petits incidents de la vie quotidienne, d'un déjeuner d'enfant, d'une servante qui est partie, de visites qu'elle vient de recevoir. « Cette dernière lettre, » s'écrie Maître Trarieux, « proteste à elle seule contre l'infamie des accusations portées contre Madame Jay. Elle n'a pu laisser tomber la plume pour courir au suicide et à la honte. La conscience n'a pas de ses effondrements subis. Cette mère n'a pas pu avoir la cruauté de mourir sans embrasser une dernière fois ses enfants. Cette femme élégante qui voulait fuir avec lui, a dit M. Chambige, ne serait pas partie sans avoir une chemise de rechange. Et rien ne serait trahi dans son attitude qui révéla l'ombre d'un souci. Elle déjeune avec ses petites filles, elle chante avec elles, elle va soigner l'enfant d'une amie. Elle est allée en ville, rapportant des gâteaux pour le goûter. Et c'est là la femme qui allait partir pour l'étranger, avec le profond psychologue, qui ne serait pas embarrassé bien longtemps, n'est-ce pas, de cette femme de 30 ans, de cette vieille pipe. Henri Chambly, j'essaie d'expliquer qu'il avait pris possession de cette âme et qu'elle lui appartenait tout entière. Il produit les lettres d'amour, mais ces lettres constituent de faux, abominables, et l'expertise l'a prouvé. Henri Chambige a voulu se faire passer au milieu de ses camarades du Quartier Latin, parmi lesquels se trouvaient nombre d'Algériens, pour le séducteur de la femme la plus charmante de Constantine. Il a dû s'écrire à lui-même des lettres d'amour pour appuyer à leurs yeux cette prétention. Il ne lui était pas difficile de faire mettre à la poste par des amis ou par des femmes à Constantine même. Mais comment Madame G est-elle venue à la villa de Sidi Mabrouk et comment a-t-elle pu y rester 2 heures? Mais rien de plus simple à expliquer que cette visite, dit Maître Trarieux. Henri Chambige n'avait qu'à la prier de venir chercher un objet quelconque dans cette maison habitée dont elle avait en quelque sorte la surveillance. Quant à son séjour de 2 heures à Sidi Mabrouk, il ne peut s'expliquer que parce qu'elle a été empoisonnée ou hypnotisée avant d'être déshonorée 2 fois et lâchement assassinée. Le calme de ses yeux indique qu'elle a été frappée d'inconscience. Maître Trarieux rappelle les expériences de catalepsie de la salpêtrière. Chambidge a pu l'endormir par le regard. Mais il est également possible que Madame G ait été empoisonnée. On a trouvé sur le tapis d'une table 2 gouttes d'une substance suspecte, et qui malheureusement n'ont été analysées qu'après avoir été lavées soigneusement par des mains inconnues. Maître Trarieux ne se prononce pas sur l'une ou l'autre hypothèse. Madame G est donc morte assassinée et Henri Chambige a fait connaître lui-même pourquoi il l'avait tuée. C'est parce qu'elle ne l'aimait pas. Il l'a avoué à son pareil, M. Gérin Rose, et le garde champêtre de Sidi Malbrouck l'a entendu par la serrure de la pièce où les deux beaux-frères s'étaient enfermés après le crime. À force de chercher des sensations nouvelles, Henri Chambige en est arrivé à penser que le crime aussi pouvait avoir sa saveur. C'est un crime horrible qu'il a commis. Il a entraîné dans un guet-apens une malheureuse femme sans méfiance et il a joué ensuite la comédie du suicide. Il a été sans pitié pour sa victime, pour ses malheureux enfants. Les jurés seront sans pitié pour lui. Le glaive de la justice doit s'abattre sur ce malfaiteur. L'audience de nuit, le réquisitoire. Constantine, 11 novembre. L'audience de nuit a été consacrée au réquisitoire de Monsieur le procureur général Maillet. Il m'a rarement été donné d'entendre une parole plus élégante et plus noble. Après avoir souhaité la bienvenue à Maître Trarieux et à Maître Durier, les deux avocats éminents que cette cause célèbre a réunis sur le sol algérien, Monsieur le procureur général Maillet trace à son tour un portrait exquis de Madame G, qui a laissé après elle, dit-il, comme un parfum de vertu, de gaieté, de bonté, de chasteté. Il rappelle, avec une émotion qui gagne peu à peu tout le monde, les jours heureux du ménage, suivis bientôt des journées d'épreuve. Il montre le père et la mère à genoux devant le berceau du petit enfant mort. Après souffrances pareilles subies en commun, Madame Gell a pu devenir une épouse adultère. Monsieur le procureur général rappelle aussi les trésors infinis de bonté que renfermait le cœur de Madame G et les origines si touchantes de l'intimité des deux familles G et Chambige. La famille Chambige a été pleine d'affection pour Madame G quand elle eut perdu son petit enfant. Madame Gers, son tour, a aimé comme une sœur la sœur d'Henri Chambige, Élise Courverchel, frappée si prématurément par la mort. De tels souvenirs sont si nobles que même après le drame épouvantable de Sidi Mabrouk, les deux familles ne pourront les chasser entièrement de leur mémoire. Maître Maillet, qui est lui-même un lettré et qui a eu une récente audience d'installation à la cour d'Alger, consacré d'un discours charmant à l'alliance des lettres et des lois, refuse pour sa part de s'associer à ceux des accusateurs d'Henri Chambige qui ont voulu faire retomber sur la littérature contemporaine la responsabilité morale du crime. « Quand je n'ai pas une victime du livre !» s'écrie monsieur le procureur général. « Il n'est que sa propre victime. Il n'a jamais ressenti la joie de la 20e année. Il n'a jamais chanté la chanson insouciante de la jeunesse, qui est notre meilleur souvenir à tous. Il n'a pas connu ces illusions, si douces et si bonnes, qui sont le miel et la force de la vie. On a voulu faire de lui un névrosé. C'est aujourd'hui la coutume, névrosé celui qui vole, névrosé celui qui viole, névrosé la femme qui tue, névrosé quiconque fait quelque chose d'extraordinaire. C'est à tort qu'on attribue cette grande névrose aux études psychologiques admirables des descendants du grand Balzac. La grande névrose, c'est la névrose des ratés comme Henri Chambige, de ceux qui ont la fièvre de vivre vite et qui s'absorbent et qui s'aigrissent dans leur impuissance. S'il faut s'en prendre à certains livres de l'état d'esprit de l'accusé, il faut sortir de cette France où la jeunesse acclame encore la vieille devise de Montaigne, de Molière, haut et clair. Il faut porter les yeux vers les brouillards d'outre-Rhin. Mais, encore une fois, Henri Chambige a été surtout victime de lui-même. Madame Gell a senti malheureux, et avec ce dédoublement de l'âme qui assurait sa pitié à toutes les infortunes, elle est allée lui tendre la main. Elle a eu pour lui une amitié sincère, maternelle et en quelque sorte divine. Et lui, le sceptique, il s'est senti renaître aux espérances et aux nobles et belles idées. Cette nature, battue par l'hérédité et par la vie, a trouvé dans la maison si hospitalière de M. et Mme Jay le refuge et le repos. Chambige, pendant cette partie du réquisitoire, semble abîmé dans sa douleur. Il est comme crucifié à la barre. Sa tête, penchée sur l'épaule gauche, retombe en arrière. Des larmes abondantes brillent dans ses yeux et coulent sur ses joues amaigries. Des sanglots déchirent sa poitrine. Et tout à l'heure, la parole implacable du ministère public va être coupée comme hachée par une sorte de râle pénible qui fait mal à tout l'auditoire. Il semble à chaque minute que l'accusé va s'évanouir. Monsieur le procureur général est convaincu que la tentative de suicide de Henri Chambige n'est qu'une odieuse comédie. Il est de la famille des Werther, d'un nouveau genre, qu'un coup de revolver à travers la joue a suffi pour réconcilier avec la vie. On ne saura jamais le mot du drame. S'agit-il d'un guet-apens? Madame G est-elle une femme irréprochable, attirée sous un prétexte dans un infâme guet-apens où elle a été assassinée et déshonorée? Le procureur général le croit fermement. Il est pleinement convaincu de l'innocence absolue de la jeune femme. Madame G a-t-elle été empoisonnée, comme on l'a cru à l'instant, après avoir découvert les taches suspectes qui ont été soumises à l'expertise chimique? A-t-elle été magnétisée, suggestionnée? Le ministère public reconnaît que l'instruction n'a pu faire la lumière sur ce point. Mais le guet-apens est certain, et dans ce cas, Henri Chambige est le plus vil des assassins. Une seconde hypothèse a été admise. Madame G a été entraînée à Sidi Mabrouk sous un prétexte. Alors seulement, Chambige lui a fait une déclaration passionnée. Alors elle s'est rendue à ses larmes, à ses menaces de suicide, et pour le sauver de la mort, affolée elle-même par tant d'amour, elle a oublié ses devoirs d'épouse. Mais elle n'a pas voulu mourir, et Chambige l'a tuée, malgré sa volonté. Monsieur le procureur général Maillet repousse avec indignation cette seconde hypothèse, contre laquelle proteste la vie tout entière de Madame Jay. Mais dans ce cas encore, Henri Chambige est un assassin, ou bien, soit, elle a voulu mourir. Après avoir donné son cœur à Henri Chambige, elle lui a donné sa vie. Elle a oublié son mari, ses deux fillettes et la chère petite tombe de son dernier né. Elle a voulu s'étaler nue sur ce lit de débauche, après avoir proclamé que la passion divinise tout, après avoir fait jurer à son amant, sur la tête de sa petite Louise, qu'il la tuera avant de se frapper lui-même. Mais dans cette hypothèse, encore si monstrueuse et inadmissible qu'elle soit, Henri Chambige doit subir un châtiment exemplaire. Qui donc avait donné à ce jeune homme de 20 ans le droit de tuer cette femme, de rendre veuf ce mari qu'il avait si cordialement accueilli, orpheline, ses deux petites fillettes infortunées? Quant à lui, il s'est manqué après l'avoir assassiné, après s'être fait une simple boutonnière à la joue, gardant 21 cartouches dans sa poche. Mouvement. Il a cherché une glace pour trouver sur son visage la place où il pourrait appliquer le revolver sans aucun danger pour sa vie. Mais s'il a eu la lâcheté de survivre, il est 1000 fois plus infâme encore d'abriter aujourd'hui sa sécurité personnelle en calomniant et en déshonorant cette jeune femme qu'il a, dit-il, tant aimée. Madame Jay eût-il été coupable qu'il eût apporté ici un sublime mensonge, affirmé que s'il l'avait frappée, c'est qu'elle n'avait pas voulu être à lui. Mais celui qui tue une femme pour se manquer après et déshonorer ensuite la mémoire de la morte, s'il n'en est pas un héros sublime, c'est un lâche. Madame Jay est sortie réhabilitée de ce débat. Elle a été la victime innocente d'un de ces théoriciens dangereux pour tous les foyers, d'un romancier qui a voulu écrire son propre roman, sans risque pour lui-même au prix de la vie d'une femme et du malheur de toute une famille. Un tel homme ne peut attendre aucune pitié du jury. Audience du 11 novembre. Maître Duryer. Maître Duryer prend la parole au nom d'Henri Chambige. La plaidoirie du bâtonnier de l'ordre des avocats est une merveille d'ordonnance de tact et de logique. Pour Maître Duryer, cette malheureuse affaire n'offre hélas pas le moindre mystère. Et les histoires enfantines d'hypnotisme, de narcotiques et de poisons inventées par la coalition des ingénieurs, des protestants et des dames de Constantine ne résistent pas au moindre examen. Il est certain que Madame Jay a éprouvé une passion violente pour Henri Chambige et leur double suicide ne peut faire de doute pour personne. Chambige est un jeune homme séduisant et sympathique entre tous, un écrivain véritablement doué, un garçon de cœur. Il souffrait. Madame Jay, attirée à lui par l'affection qui les unissait un et l'autre à sa jeune sœur morte l'an passé, s'est intéressée à ce jeune homme parce qu'il était malheureux, et elle est allée sans s'en rendre compte de la pitié à l'amour. Tous deux, étant des âmes extrêmement honnêtes, se sont aperçus trop tard qu'ils s'aimaient et ils ont été épouvantés de ce sentiment. Henri Chambige a fait son devoir, si cruel qu'il fût, en quittant volontairement Constantine. Et c'est une terrible fatalité que cette maladie de sa mère l'ait rappelée en Algérie. Madame Jay n'était pas romanesque, a-t-on dit. Elle était gaie, enjouée, elle adorait la vie. Maître Durier conteste absolument cette tranquillité d'esprit. Madame G souffrait d'une grave maladie de foie. Elle était inconsolable depuis la mort de son enfant. L'honorable avocat donne lecture de plusieurs lettres adressées par Madame G à ses amis et qui renferment des phrases singulières. « Elle en a fini avec ce monde, disait-elle, dit l'ami malade, avec cette vie presque toujours laide et triste. « Ça doit être de plus en plus fou, écrivait-elle encore en parlant de son cheval favori. Je n'adore rien tant que de le monter. Elle a une rude patience de souffrir comme cela, écrivait-elle en parlant d'une autre amie également malade. À sa place, que ferais-je? Zut, c'est pas facile à dire. Je ne dis plus de vilaines choses, écrivait-elle à Madame du Camper, mère d'Henri Chambige. Et tel était son état d'esprit, dit Monsieur Durier, quand il a connu ce jeune homme, qui se croyait sceptique et qui devait laisser son cœur s'ouvrir à la première idylle. Ils ont commencé, selon le mot de Mme G elle-même, par s'aimer comme frère et sœur. Le premier baiser devait fatalement suivre de près de telles promesses. C'est toujours ainsi que se sont passées et se passent ces choses entre amoureux. M. G est un galant homme qui a eu le seul tort de trop laisser face à face cette femme de 30 ans et ce jeune homme. Et cependant, jusqu'au jour du drame sanglant de Sidi Mabrouk, il n'y avait eu entre ces deux êtres qui s'adoraient que les enfantillages charmants de l'amour. Madame G a résisté tant qu'elle a pu, mais quand sa passion l'a emportée, elle n'a pas voulu survivre. Maître Durier fait ressortir la signification de toutes les scènes qui ont précédé le double suicide. Madame G a reçu, dès 8 heures du matin, en l'absence de son mari, la visite d'Henri Chambige, qui est resté avec elle pendant plus d'une heure et demie. Ce tête-à-tête est-il assez concluant? Il est certain que Chambige a passé toute l'après-midi à chercher 10 000 francs pour fuir. La chose n'est pas contestable. Madame G est arrivée absolument libre à la villa de Sidi Mabrouk. Que pouvait-elle aller faire avec un jeune homme dans cette villa déserte? Elle a parfaitement entendu Henri Chambige quand il a crié au cocher « Vous attendrez peut-être longtemps !» Elle a entendu le jeune homme retirer la clé de la serrure et donner à l'intérieur un double tour. Elle a enlevé son chapeau et sa casaque et les a accrochés à une patère. Et elle est montée directement avec Henri Chambige à la chambre à coucher, dont les volets ont été immédiatement entrouverts, comme lorsqu'on cherche un jour discret, et non pas ouvert tout grand, comme quand on vient chercher un objet dans un tiroir. Et elle est restée là 2 heures, sans que le cocher assis sous la fenêtre même ait entendu un cri ou un bruit quelconque. « Cette affaire est effroyable !» s'écrivait Durier. « Mais elle n'est malheureusement pas mystérieuse. » Madame G était une âme honnête et haute. Elle n'était pas de celles qui considèrent l'adultère comme une distraction à la monotonie de la vie conjugale. Elle a voulu mourir quand elle s'est sentie tomber. S'il ne s'agissait pas ici de la Société des Dames de Constantine, du corps des ingénieurs et du monde protestant, qui a remué ciel et terre dans ce procès, la discussion ne s'engagerait même pas. La lumière était si éclatante que Madame Scherb, la femme du pasteur, voulait habiller le cadavre et l'emporter de la villa de Sidi Mabrouk. Monsieur Fogg, ami intime de la famille Gray, constatait avec douleur qu'il était impossible de douter. Le monde protestant n'a vu qu'inventer pour dénaturer des faits malheureusement trop clairs. Il n'a pas craint de lancer dans la circulation cette hypothèse fantastique de l'hypnotisme qui deviendrait si commode pour toutes les femmes surprises en flagrant délit si elles devaient acquérir droit de cité dans les prétoires. Il n'y a qu'un malheur, c'est que jamais Chambige ne s'est occupé de suggestions. On a soulevé ensuite la fameuse question des gouttes de poison, reconnues plus tard pour être des gouttes de café. Et quand on s'est senti à bout, on a insinué que Madame G avait dû être terrorisée par Henri Chambige et portée évanouie sur le lit. Comme si elle n'eût pas crié, comme si le clocher qui était sous sa fenêtre n'eût pas entendu quelque bruit. Comme si enfin on n'avait pas trouvé dans le lit la trace des deux corps qui s'y étaient couchés côte à côte. Monsieur G a eu une attitude héroïque en venant ici défendre l'honneur de son nom. Mais il ne faut pas qu'on se serve de ce sentiment si respectable pour accabler un accusé et demander sa tête au jury. Madame G a voulu mourir, et il n'est pas étonnant qu'on ait trouvé chez elle aucune trace de lettre d'adieu à sa famille. Quand on songe à la perquisition domiciliaire qu'avait opérée le pasteur Gerbe et sa femme avant l'arrivée de la justice, ce n'est pas la première fois que deux amants se suicident ensemble. Et les annales judiciaires sont malheureusement pleines de ces drames intimes. Les exclamations, les cris d'indignation ne peuvent prévaloir contre la triste éloquence des faits. Maître Durier termine en demandant l'acquittement d'Henri Chambige pour un acte de folie. Les jurés ne peuvent prononcer une condamnation. Henri Chambige n'a pas joué une infâme comédie. Si son revolver avait dévié d'un millimètre, la mort était certaine. On peut se tromper d'un millimètre quand on vient d'immoler ce que l'on aime le plus au monde. Même dans les circonstances où n'existe pas de telle cause d'émotion, il est constaté que 50% des suicidés se manquent. Saint-Simon s'est manqué en se tirant une balle dans l'œil. Bourbaki, dans un moment d'exaltation patriotique, s'est appliqué un revolver sur la tempe et l'arme a dévié. Il n'y a ni meurtre ni assassinat au sens légal du mot quand deux amants ont accepté et juré de mourir ensemble. Après deux répliques de Maître Trarieux et de Monsieur le procureur général Maillet, qui déclarent ne pas requérir la peine de mort, Maître Durier reprend la parole. Il repousse les circonstances atténuantes. Pour ce jeune homme, dit-il, entre le bagne et l'échafaud, je n'hésite pas un seul instant. Vous l'acquitterez ou le condamnerez sans pitié. L'affaire Chambige, le verdict. Après une demi-heure de délibération, le jury rapporte un verdict de culpabilité sur la question du meurtre et sur celle de la préméditation. Des circonstances atténuantes sont accordées à Henri Chambige. Monsieur le président Zille des Zille interroge le condamné sur l'application de la peine. Chambige répond avec un sourire triste qu'il n'a rien à dire. Pendant la délibération de la cour, tous ses amis se pressent autour de lui pour lui serrer les mains. La cour condamne Henri Chambige à 7 ans de travaux forcés et alloue à la famille Gey le franc de dommages-intérêts que Maître Trarieux avait demandé en son nom. Henri Chambige ne s'est pas pourvu en cassation et dans les premiers jours de janvier 1889, Monsieur le Président de la République a commué en 7 ans de réclusion la peine de 7 ans de travaux forcés prononcée contre lui. Monsieur Gey a écrit alors la lettre suivante au chef de l'État. Monsieur le Président de la République, au lendemain des assises, le président du jury de Constantine se présentait chez moi au nom de ses collègues pour répudier toute complicité dans la singulière clémence apportée par la Cour dans l'application de la peine infligée à Chambige, reconnu coupable d'avoir assassiné Madame G avec préméditation. Au lendemain de la mesure que vous venez de prendre à votre tour en faveur de ce criminel, je crois de mon devoir de faire la même démarche. Ignorant les considérations particulières qui ont pu vous décider à agir, flinguer cette suprême insulte à la pauvre victime, je me garderai de protester, mais j'ai le droit de vous faire observer que si, dans votre conscience, l'assassin vous a semblé digne d'intérêt, c'est que vous avez dû oublier que j'avais deux filles que vous condamnez à se trouver dans quelques semaines vis-à-vis de l'homme qui non seulement a lâchement tué leur mère, mais encore a essayé de la déshonorer par ses infimes calomnies. Je viens donc, monsieur le président, vous demander de faire grâce pleine et entière à l'assassin Chambiche, pour que je puisse me faire justice moi-même, puisque le plus haut dignitaire de mon pays me la refuse. Ce que vous avez accordé à un assassin, vous ne pouvez pas me la refuser à moi, qui ne suis qu'un honnête homme. Je vous remercie, monsieur le président, de m'avoir fourni l'occasion de répondre à toutes les infamies déversées sur ma chair et sainte morte, d'affirmer une fois de plus en face des honnêtes gens ma foi absolue et entière dans sa pureté et la vertu, le profond respect pour cette qui a porté mon nom, pour la mère de mes enfants. Veuillez agréer, monsieur le président, l'expression de mon sentiment respectueux, signé G. De leur côté, les membres du jury ont protesté par cette lettre, également adressée à monsieur Carnot. Monsieur le président de la République, les membres du jury de Constantine, qui dans leur âme et conscience ont déclaré Chambiche coupable d'assassinat avec préméditation, croient devoir vous exprimer respectueusement leur regret de l'acte de clémence qui a suivi l'arrêt déjà trop indulgent de la cour et demandent que la réclusion soit faite ailleurs qu'en Algérie. Cette déclaration était signée du chef du jury en possession de l'autorisation individuelle de chacun de ses 11 collègues. Henri Chambige subit sa peine à la prison de Lambèze, en Algérie.